Luc, c'est confirmé par plusieurs auditeurs en circulant sur Laurier ce matin. Arrivant d'une rue transversale, un cycliste en pleine tempête, derrière le vélo, accroché un petit wagon couvert dans lequel semble s'agiter un bébé. Quand je lui ai fait signe, nous écrit notre auditeur, il m'a fait un grand sourire du fanatique satisfait qui trouve son point.
C'est irresponsable, je trouve, mais enfin.
OK.
C'est irresponsable.
Il y a des motocyclistes qui disent, c'est drôle, nous autres, on pense pas sortir avec nos motos. Bon, tu sais que c'est le moment où on reçoit Pascal Bérubé, le chef intérimaire du Parti québécois, pour discuter avec lui de grands enjeux. Bonjour, et de petits enjeux. Il vient de m'apprendre qu'on est dans la journée mondiale de la radio.
Je savais pas ça.
Oui, décrété par l'UNESCO en 2011. Et là, il y a un thème cette année, c'est Dialogue, Tolérance et Paix.
Que ça il fera puisse, pas de la bonne radio avec ça.
Que ça puisse vous accompagner avec la voix tout au long de la journée et de l'année.
Ça fera pas de la bonne radio. Dialogue, Tolérance et Paix.
Journée mondiale de la radio.
Alors,
et je peux
Pascal,
vous...
bienvenue.
Oui?
Bienvenue à la journée internationale de la radio au FM 93, la meilleure station de radio au Canada.
Et on réalise, lorsqu'il y a une tempête, par exemple, l'importance de la radio comme médium pour nous informer. Alors, moi, je le vis à Matane, je le vis ici, et on réalise que c'est un médium qui va demeurer d'actualité, pas uniquement pour cette raison-là, mais sa capacité d'informer rapidement les gens, et de façon assez universelle, je dirais aussi.
Entre autres, pour la proximité, effectivement.
Oui.
C'est,
oui.
C'est d'ailleurs, le slogan de WGN à Chicago, c'était « Réseau social depuis 1924 ».
C'est bon.
C'est bon, ça. C'est très bon,
de quoi
ça.
On parle aujourd'hui?
Ben, vous vouliez parler du français.
Parlez-nous du français, monsieur le chef.
Alors, le français, c'est important... encore en 2019, d'en faire la promotion et la protection. Et moi, je fais une réflexion. En fait, j'ai une réflexion, mais une constatation, parce que je suis souvent à Montréal aussi. Et il y a bien des gens, un peu plus âgés que moi, qui me disent, moi, je suis devenu notamment indépendantiste ou très épris de la défense de la langue française, parce que il y a des années de ça, on parlait juste en anglais au centre-ville de Montréal. Mmh. Vous savez quoi?
Mmh.
C'est encore ça. À Montréal, au centre-ville, se faire servir en anglais, ce n'est pas anecdotique. Je le sais, quand on a fait la motion du « bonjour, aïe », ça a touché quelque chose de sensible. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? C'est important, oui, de faire la promotion de la langue, bien la parler, bien l'écrire, bien l'enseigner. En être fier, la faire rayonner, mais aussi, ça va prendre des mesures de protection parce qu'il y a un mouvement inexorable qui fait en sorte que si on s'en occupe pas, on est entouré d'un océan d'anglophones qui sont pas nécessairement hostiles, mais c'est la culture qui prédomine. Donc, c'est une anecdote que je vous donne qui démontre qu'il y a des combats qui sont encore à faire aujourd'hui, tant dans la promotion que la protection. Moi, je dis les deux, pas juste la protection.
Mais monsieur Bérubé, là, Pascal, vous pensez pas que... Puis moi, je suis honnêtement un ardent défenseur de la langue française. Je n'accepte pas de me faire servir en anglais au centre-ville de Montréal.
Faites bien.
J'insiste pour vous dire que c'est beaucoup plus rare que ce que vous dites et que s'il y a une chose qui se produit souvent, c'est qu'on va se faire parler d'abord en anglais, mais j'attire votre attention sur la présence massive de touristes venus des États-Unis aussi qui sont au centre-ville de Montréal.
Ouais,
mais revenons à ma question. La qualité du français, on dirait qu'on... On a tendance à aller voir toutes les autres mesures pour protéger et faire vivre la langue, mais que la vraie affaire, c'est-à-dire la qualité du français, on parle pas, c'est pas le créole qu'on parle ici, c'est le français, une langue universelle. Nos enfants sortent des écoles, ils savent pas l'écrire. On regarde les médias sociaux, ceux qui interviennent, c'est d'une tristesse à faire pleurer. Je veux dire, le Québec va rester francophone s'il est dynamique avec sa langue qui est capable de communiquer à l'international.
Très juste.
Pourquoi vous n'allez pas plus vers ça?
Je pense qu'il faut faire les deux. D'abord, le français, c'est une grande langue internationale. C'est une des langues de l'olympisme. Pour donner cet exemple-là, et c'est une langue qui est en croissance...
De la Croix-Rouge, de l'ONU.
À l'international, des arts, de la culture, de l'amour, de tout ce que vous voulez. Alors, c'est en croissance, notamment grâce au continent africain. Au Québec, ça demeure encore fragile. Alors, bien l'enseigner... bien la parler, bien l'écrire, valoriser lorsqu'on écrit bien. Mmh. Sur les réseaux sociaux, c'est évident qu'il y a du laisser-aller et souvent, ça nuit à la qualité du message. Puis je vois des gens qui communiquent essentiellement des francophones, mais en anglais. Je me demande pourquoi. Je ne sais pas si c'est plus cool.
Non, mais ils espèrent avoir plus de clics. Il espère d'avoir plus de clics, ouais, plus de vues, plus de ci, plus de ça, ben, plus ça de rayonnement.
Pas. Ben, ça marche pas. Alors, photographier là, la même scène qui se passe à Québec, là, puis avoir un commentaire en français ou en anglais, ça donne la même chose. C'est pertinent, les gens.
Mais,
c'est pertinent.
Mais M. Bérubé, il y a un peu dans ça de choses qui viennent de la France. La France s'est rendue ridicule.
Ils sont pas modèles.
Il y a pas si longtemps.
Ils sont pas modèles là-dessus.
Mais c'est notre métropole. Hein.
C'est en partie là, parce que le Québec, il y a des francophones, il y a des gens qui viennent d'Écosse, qui viennent d'Irlande, qui viennent de partout. On a une relation privilégiée avec la France, mais disons qu'on aurait des leçons à leur donner à bien des égards.
Mais moi, je pense que quand on reçoit un touriste, même quand on sait que c'est un Américain, Luc, là, je pense qu'on doit s'adresser à lui en français d'abord.
Je suis d'accord.
C'est ce
je
qui fait notre
d'accord.
originalité. Sinon. Qu'est-ce que ça donne? Sinon, on devient quoi? Winnipeg, Calgary, Fredericton?
À chaque fois que je me fais servir le bonjour, hi, sans agressivité, je demande à la personne, pourquoi le hi? Parce que bonjour, là, c'est un des mots français les plus universellement connus.
C'est magnifique.
Quand tu vas voir un Américain qui a jamais étudié le français de sa vie, il va être capable de dire bonjour. Bonjour, on sait ce que ça veut
absolument.
Dire.
Et cet enjeu-là, il est lié à l'actualité parce que, bon, on a l'enjeu des nouveaux arrivants. Là. Il y en a 18 000 Je sais que ça vous touche de près, Luc, vous avez souvent intervenu là-dessus. Mmh? 18 000 dossiers
à la poubelle. Oui, ça me touche énormément.
Alors, on a fait une proposition ce matin. Des 18 000, là, il y en a qui répondent à trois critères. Ils sont déjà au Québec, ils parlent français, sont intégrés en emploi. On est capable d'ajouter des ressources et de les intégrer. Parce que ça peut paraître séduisant pour bien des personnes de dire « Hey, ces 18 000-là, ils rentreront pas. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des destins...
Ils sont déjà ici dans bien des cas.
Oui, il y a des destins qui sont liés à ça. Ça prend de l'humanité. Et entre, bon, 18 000 de backlog, là je donne pas l'exemple avec un mot qui est pas français, là, mais d'aréage et la précipitation actuelle qu'on voit, ça prend de l'humanisme et de l'efficacité. Puis je trouve que dans les deux cas... À la fois le nouveau gouvernement qui met ça sur le dos de l'ancien gouvernement, il me semble qu'entre les deux, on serait capable de faire preuve d'humanité puis de bien faire les choses.
Puis il réduit ça à un remboursement de 1 000 piastres, mais pour avoir passé deux fois par... Pour être passé, oui, mais pour être passé deux fois par le processus d'immigration pour mes deux enfants, là, la quantité de documents qu'il faut produire, renvoyer, la quantité de formulaires à remplir, de conditions à remplir, ça, c'est pas le 1 000 piastres qu'il le pire, c'est le temps que tu as investi.
L'interminable attente.
Et l'espoir qui est suscité. C'est ça.
Évidemment. L'interminable attente qui devient insupportable. Hein? Alors, moi, là-dessus, M. Bérubé, je vous le dis, là, je n'en reviens pas de l'improvisation avec laquelle cette loi-là a été déposée. Il semble qu'il n'était même pas au courant de ce qu'il faisait.
Je vous confirme que j'arrive. Là. Vous savez, là, que dès que je quitte la période des questions, là, je pense à vous et je vais bien vous voir. Il ne sait pas plus ce matin. Et on ne peut pas improviser sur des enjeux de cette nature-là.
Non.
On ne joue pas avec des objets inanimés. Ce n'est pas la gestion de la forêt. Là. C'est la gestion d'êtres humains qui sont en attente légitime de savoir quelles considérations on va leur apporter.
On doit lui parler demain à Simon Jolin Barrette.
Il va venir vous voir?
Ben, normalement, oui.
Oui, oui.
Je vais lui faire le message.
OK. Autre sujet. J'ai vu que vous étiez en train de vous rapprocher de la CAQ pour essayer de faire en sorte que sur les signes religieux, il y ait une majorité en pourcentage des Québécois.
Double majorité. Des sièges et de la population.
D'abord, je veux vous dire, Luc et moi, là-dessus, on n'est absolument pas d'accord. Ça ne sert à rien qu'on reparte le débat entre nous. Cependant, vous êtes en train de vous rapprocher de la CAQ et donc de permettre à la CAQ de passer son projet sur les signes religieux.
Ou l'inverse, c'est peut-être la CAQ qui se rapproche de nous. C'est une question de perspective. On a commencé à...
Mais moi, ce que je trouve...
Oui, allez-y, Luc.
Oui, mais moi, ce qui m'étonne dans votre position qui est en évolution... Vous, quand vous étiez au pouvoir, je parle du gouvernement de Pauline Marois, ça a été la charte des valeurs. Laquelle allait considérablement plus loin que ce que propose la CAQ, contre quelque chose à laquelle je m'oppose, mais comment se fait-il que là, on dirait que vous êtes ceux qui reculent. Tant mieux, soit dit en passant, tant mieux, mais ça fait drôle, c'est dur à suivre.
OK. J'étais membre de ce gouvernement. La charte, c'était le projet pour régler ces questions-là de laïcité. On était minoritaire, on a été battu. On n'a pas pu l'appliquer. Moi, j'en suis totalement solidaire et jamais vous allez m'entendre renier cette position gouvernementale. Je suis comme ça, moi. Si tu restes au Conseil des ministres, tu acceptes les décisions puis tu débats à l'intérieur. Ceci étant dit, Depuis septembre 2017, on a une position adoptée en Congrès parce qu'on a un parti avec des milliers de membres qui dit essentiellement toute personne en autorité, juge, gardien de prison, policier, procureur, plus les enseignants, éducatrices en CPE, pas de signes religieux visibles, ostentatoires. On dit ça. Mais on dit aussi que c'est pas réaliste que, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, qu'une enseignante, par exemple, je prends cet exemple-là, qui enseigne depuis 15 ans, soit déplacée dans un autre métier qui est le sien parce qu'on a passé la loi. Moi, je pense qu'à partir du moment où on passe la loi, tout le monde connaît les conditions puis décide de s'engager ou pas dans les professions que je vous ai nommées. Ce qui arrive avec la CAQ, moi, je connais pas leur position pour l'instant. Puis il y a des gens qui ont plein de fantasmes sur la position qui est celle de la CAQ qu'on ne connaît pas. Alors, eux autres, ils n'auront pas de clause grand-père. Ben, ils m'ont pas dit ça. Puis j'ai pas entendu ça hier quand j'ai rencontré.
Mais c'est le premier ministre qui a dit ça.
C'est pas clair. Geneviève Guilbeault l'a dit aussi.
Geneviève Guilbeault, qui, soit dit en passant, là, semblerait-il, est une experte là, en communication gouvernementale, a dit qu'on allait congédier des gens. Puis après, le premier ministre a dit le contraire. Puis après, ils ont redit ça. Quand on aura le projet de loi, on va être fixé. Ce que je dis, c'est qu'on est beaucoup plus près de la position de la CAQ que de celle de Québec solidaire du Parti libéral. Il y a comme une ligne de démarcation là, qui est assez évidente. La CAQ, ils ont 75 députés. Mmh. Ils peuvent le passer, leur projet de loi. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais on va quand même faire des propositions et essayer de les influencer.
Ils ont quel pourcentage du vote?
37.
37. C'est... Avec vous autres, ça les
54.
À 54.
Bon, alors, c'est un concept qu'on peut avoir entre nous de dire une majorité de la population, essayer de ratisser plus large. J'ai posé la question hier au ministre, on a eu une rencontre, transparence totale, moi je dis où je vais, rencontrer le ministre. Et il m'a posé beaucoup de questions sur notre position, il m'a rien dit de son côté, mais il me tarde de voir son projet de loi pour... Je pense qu'il y a encore des échanges à avoir dans leur caucus. Selon une journaliste, 80% de leur caucus ne serait pas en faveur d'une clause grand-père. À suivre.
Alors, il va falloir que vous fassiez attention, parce que la CAQ, là, présentement, d'abord, il y a plein de leur personnel politique qui vient du Parti québécois. Il y a plein de gestes qu'ils posent depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, qui sont avec l'intention évidente d'avoir une chicane avec Ottawa. Vous les laissez aller un peu, c'est vous ce qui va vous arriver, ils vont vous avaler.
Je crois pas, moi. Puis il n'y a pas juste des péquistes. Mme Guilbeault a travaillé pour Jacques Dupuis. C'est assez libéral, merci. Ça, M. Lavoie, j'oubliais ça. T'as la bonne
affaire. Oui, mais allez voir son entourage, Pascal. Allez voir son entourage.
Oui, mais il y a des libéraux, il y a des péquistes, il y a des libéraux, puis il y a des opportunistes. Il y a de tout.
Merci beaucoup, monsieur. M. Bérubé.
Non, je vais y poser une dernière question. SNC-Lavalin, c'est quoi votre position là-dessus, vous?
SNC-Lavalin, il faut punir ceux qui ont fauté, mais cette entreprise-là est un joyau qui doit être préservé. Alors, sans intervenir dans le processus de la justice, réalisons à quel point c'est important pour le Québec, cette expertise. Sauvons cette entreprise-là, c'est un joyau, et punissons sévèrement ceux qui ont péché, c'est pas le cas pour M. Duhaime, et ceux qui ont peut-être intervenu dans le processus judiciaire, ça, c'est grave. C'est ça, ma position. T'en penses quoi?
Moi, ce que j'en pense,
ouais.
Je pense que le fait que la ministre... D'abord, Wilson Raybould va devoir s'expliquer. Ça m'apparaît évident. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que c'est que la définition d'une intervention? Si tu dis au procureur général, qui après tout est assis autour de la table du Conseil des ministres, j'aimerais ça que tu regardes dans telle direction, s'il ne fait pas... C'est ça l'indépendance.
Oui, mais si le procureur général est ensuite limogé...
C'est comme sur Bastarache. Quelle est l'influence indue en matière de justice? Ça pourrait être l'objet d'un futur rendez-vous.
Voilà.
D'accord. Rendez-vous la semaine prochaine.
Le commissaire à l'éthique va s'en occuper à la semaine prochaine, Pascal.
Je pense que c'est une grosse histoire à Ottawa, puis on n'a pas fini d'entendre parler.
C'est énorme, énorme, énorme.
À suivre.
D'ailleurs, on en parle dans un instant.
Merci de ce beau rendez-vous.
Au plaisir.
Je remets ma tuque.
Toujours un plaisir.
Salut.